Vie et aventure de Nicholas Nickleby. Chapitre 30. Fête donnée en l'honneur de Nicolas, qui se sépare tout à coup de la société de Monsieur Vincent Crumless et de ses camarades de théâtre. Monsieur Crumless n'eut pas plus tôt appris que Nicolas avait annoncé publiquement la probabilité de son prochain départ qu'en songeant à la perte qu'il allait faire d'un membre si important de sa troupe, il s'abandonna au chagrin et à l'abattement. Dans l'excès de son désespoir, il alla jusqu'à faire de vagues promesses d'une augmentation prochaine, non seulement dans les honoraires fixes de l'artiste, mais aussi dans le revenu éventuel de ses droits d'auteur. Enfin, quand il eut trouvé Nicolas inflexible dans sa résolution de quitter la troupe, car il venait de s'y décider absolument, même dans le cas où il ne recevrait pas d'autres nouvelles de Newman, voulant à tout hasard se tranquilliser l'esprit en allant reconnaître à Londres la position exacte de sa sœur, Monsieur Crumless en fut réduit à se consoler par l'espérance qu'il pouvait revenir et à prendre des mesures promptes et énergiques pour tirer au moins de sa présence tout le parti qu'il pouvait avoir avant son départ. Voyons, dit Monsieur Crumless en ôtant sa perruque de proscrit pour avoir les idées plus fraîches dans l'examen de cette importante question. Voyons, c'est aujourd'hui mercredi. La première chose que nous ferons demain matin, ce sera de mettre des affiches annonçant positivement votre dernière représentation pour l'après-midi.
Mais vous savez, il est bien possible que ce ne soit pas la dernière. À moins que je ne sois rappelée précipitamment, je serai fâchée de vous laisser dans l'embarras en vous quittant avant la fin de la semaine.
Tant mieux, reprit Monsieur Crumless. Cela fait que vous pourrez nous donner encore une dernière représentation jeudi, rengagée pour une soirée seulement vendredi, et, pour céder au désir d'un grand nombre de personnes influentes qui patronnent le théâtre et qui ont eu le désagrément de ne pouvoir se procurer des places, samedi aussi. Voilà qui doit nous faire trois recettes très convenables.
Alors, je vais donc avoir trois dernières représentations ? Demanda Nicolas en souriant.
« C'est vrai, » répliqua le directeur en se grattant la tête d'un air contrarié. « Cela n'en fait que trois, c'est trop peu. C'est vraiment un massacre de s'en tenir là, c'est même contre les règles. Mais enfin, que voulez-vous ? On ne peut faire que ce qu'on peut, il n'y a rien à dire. Seulement, il nous faudrait bien quelques petites nouveautés. Est-ce que vous ne pourrez pas chanter une chanson comique à cheval sur un poney, hein ?»«
Non, » répondit Nicolas, « je m'en sens tout à fait incapable. »
« C'est dommage, cela nous a quelquefois rapporté gros !» dit Monsieur Crumless, visiblement désappointé. « Qu'est-ce que vous dites d'un beau feu d'artifice ?»«
Ce serait un peu cher !» répliqua Nicolas tout sec.
« Bah ! Avec une pièce de 40 sols, on en verrait la fin !» dit Monsieur Crumless. « Vous, par exemple, sur une estrade de 2 marches, avec le phénomène, faisant tableau ?»« Adieu sur un transparent par derrière !» 9 personnes sur les ailes avec un pétard dans chaque main, les 18 pétards partant ensemble. Ah, ce serait tout à fait grand, un magnifique coup d'œil à voir dans la salle, un vrai coup d'œil.
Comme la solennité de cet effet merveilleux ne paraissait pas avoir converti Nicolas, qui reçut au contraire la proposition de la manière la moins respectueuse par un grand éclat de rire, Monsieur Crumless vit bien que c'était un projet avorté. Et fit seulement l'observation d'un air triste qu'alors il faudrait enjoliver le mieux qu'il pourrait l'affiche d'Annon de combat et de bourrées écossaises, que pour le reste on s'en tiendrait au drame pur. Pressé de passer à l'exécution immédiate de son plan, le directeur se rendit sur le champ dans un petit cabinet de toilette voisin où Madame Crumless était, pour le moment, occupée à échanger le costume d'une impératrice de mélodrame contre la toilette d'une matrone du XIXe siècle. Et là, avec l'aide de cette dame et de l'incomparable Madame Gruden, un vrai génie pour les affiches, elle n'avait pas son pareil pour semer à grands traits les points d'exclamation. « Personne ne pouvait disputer à sa longue expérience la science des grandes lettres capitales et de la place qu'elle devait nécessairement occuper. Elle se mit sérieusement à l'œuvre pour composer l'affiche. « Ouf !» dit Nicolas avec un soupir, en se renversant dans le fauteuil du souffleur, après avoir fait jouer le télégraphe pour donner à Smic les conseils nécessaires à son rôle. Smic jouait comme intermède celui d'un tailleur un peu étoffé, avec un habit auquel il manquait un pan, un petit mouchoir de poche percé dans un trou, un bonnet de nuit en laine, le nez rouge et les autres attributs convenus des tailleurs de théâtre. « Ouf ! Que je voudrais donc que tout cela fût fini !»« Fini, monsieur Johnson ?» répéta une voix de femme derrière lui avec une espèce de surprise et d'un ton de reproche. « L'exclamation n'est pas galante, c'est vrai !» dit Nicolas, reconnaissant dans son interlocuteur mademoiselle Snevellicci. « Vous pouvez être sûr que je ne me la serais pas permise si j'avais pu croire que vous fussiez là pour l'entendre. » Le tailleur, justement, quittait la scène à la fin de la pièce, couvert d'applaudissements. « Quel charmant jeune homme que ce monsieur Digby !» dit mademoiselle Snevellicci. « Monsieur Digby est le nom de guerre de Smic. Je vais de ce pas lui faire part de vos sentiments, cela lui fera plaisir !» reprit Nicolas. « Êtes-vous méchant ?» répliqua mademoiselle Snevellicci. « Ce n'est pas, après tout, qu'il me serait bien égal qu'il sût mon opinion sur son compte. Il y a telle autre personne avec laquelle ce serait... » Mademoiselle Snevellicci n'alla pas plus loin, dans l'espérance sans doute de provoquer quelques questions. Mais la question ne fut pas faite. Nicolas avait alors des pensées plus sérieuses. « C'est une grande bonté de votre part, » reprit mademoiselle Snevellicci après un court silence, « de rester ici à l'attendre tous les soirs. Tous les soirs, fatiguée ou non de vous donner tant de mal après lui, et toujours avec autant de plaisir et d'empressement que si cela vous rapportait des monts d'or. » Il mérite bien toute l'affection que je peux lui donner et lui montrer, et mieux encore, dit Nicolas. C'est le cœur le plus reconnaissant, le plus loyal, le plus affectueux qui ait jamais battu dans une poitrine humaine. C'est égal, il est bien drôle, observa mademoiselle Snevellicci, n'est-ce pas? Nicolas branla la tête et répondit à mademoiselle Snevellicci. C'est vrai, Dieu me pardonne, et surtout à ceux qui l'ont mis dans cet état. C'est toujours un garçon qui est diablement boutonné, dit monsieur Foller qui venait d'arriver pour se mêler à la conversation. Il n'y a pas à dire que personne puisse rien tirer de lui. Et qu'est-ce que vous voulez tirer de lui? Demanda Nicolas en se tournant un peu brusquement. Diantre, quelle soupe au lait! Comme vous vous emportez, monsieur Johnson, répliqua monsieur Foller en relevant le quartier de son chausson de danse. Je ne parlais que de la curiosité bien naturelle aux gens de savoir ce qu'il a fait dans toute sa vie. Le pauvre garçon, je croyais qu'il n'était que trop visible qu'il n'a pas assez d'intelligence pour avoir jamais rien fait d'important, ni pour eux, ni pour personne. À la bonne heure, répliqua l'acteur en se mirant et s'admirant dans un quinquet à réflecteur. Mais c'est là le nœud de la question, vous comprenez? Quelle question? Demanda Nicolas. Mais qui il est? Ce qu'il est? Comment se fait-il que deux personnes aussi différentes que vous l'êtes soient devenues inséparables? Répondit monsieur Foller, enchanté de l'occasion de dire quelque chose de désagréable. Les voilà, les questions que tout le monde se pose. Tout le monde de la troupe, je suppose, dit Nicolas avec mépris. Au-dedans comme au-dehors, répliqua l'acteur. Tenez, Lenville, par exemple. Je croyais pourtant l'avoir fait taire, dit vivement Nicolas, le rouge lui montant à la figure. Peut-être, continua l'imperturbable monsieur Foller. Alors, c'est qu'il disait cela avant que vous l'eussiez fait taire. Lenville, donc, prétend que vous êtes un artiste de renom. Il n'y a que le mystère qui vous entoure, qui ait pu vous décider à venir vous associer à notre troupe, et que Crumless vous garde le secret parce qu'il en profite. Ce n'est pas, comme dit Lenville, qu'il y ait du mal à cela, si ce n'est que vous aurez eu quelques mauvaises affaires qui vous auraient forcé de vous sauver de quelque part pour avoir fait quelque chose. Ah, dit Nicolas qui riait jaune. Voilà une partie de ses propositions, ajouta monsieur Foller. Je ne vous en parle qu'à titre d'ami commun et sous le sceau du secret. Je ne suis pas son homme, vous le savez. Eh bien, il veut absolument voir dans Digby plutôt un fripon qu'un imbécile. Et quant au vieux Flaggers, qui fait ici, comme vous le savez, la grosse besogne, il croit se rappeler que, du temps qu'il était commissionnaire à Covent Garden, il y a bientôt 6 mois, il y avait toujours un filou qui était en mouvement pour ouvrir les portières, qui était le portrait même de Digby. Cela n'empêche pas, comme il le dit très bien, que ce peut bien être pas lui, mais seulement son frère ou quelques proches parents.
Nicolas poussa un cri de surprise.
« Ah ? Vraiment ?»«
Oui, » dit M. Foller, toujours avec le même calme. « Voilà ce qu'on dit. J'ai pensé que vous seriez bien aise de le savoir. C'est pour cela que je vous en ai parlé. Oh, bénédiction ! Voilà enfin le phénomène, mon boulet, ma croix. Ah, je voudrais te voir. Me voilà prêt, ma mignonne.
Imbécile ! Vous pouvez sonner, Madame Gruden !»
Comme ces formes de compliments si diverses n'étaient pas non plus prononcées du même ton, il disait tout haut « ma mignonne » pour flatter la crédule enfant. Mais sa croix et son boulet faisaient partie d'un aparté dans lequel était compris Nicolas. Monsieur Foller suivit des yeux le lever de la toile, regarda avec un rire moqueur la réception faite à Mademoiselle Crumless, la vierge du ballet, et recula d'une semelle ou deux pour s'avancer sur la scène de manière à produire plus d'effet. Il poussa d'abord un hurlement préliminaire, puis il se mit à grincer des dents et à brandir son tomahawk de fer blanc en sa qualité de sauvage indien. Voilà un échantillon des sottes histoires qu'ils inventent sur notre compte et qu'ils font après circuler de bouche en bouche, se disait Nicolas. Qu'un homme vienne à commettre un horrible attentat contre la société dont il est membre, petit ou grand, il n'a qu'à réussir, son crime sera bien vite oublié. Mais par exemple, on ne lui pardonnera jamais son succès.
J'espère que vous ne faites pas attention à ce que dit cette mauvaise langue, monsieur Johnson, insinua mademoiselle Snevellicci de sa voix la plus douce et la plus séduisante.
Qui ?
Moi ?
Répondit Nicolas.
« Si j'étais pour rester ici, je me donnerais peut-être la peine de démêler cette intrigue. Mais dans ma situation, ils peuvent bien s'enrouer à parler tant qu'ils voudront, ce n'est pas moi qui les empêcherai. »«
Mais voici, » ajouta-t-il en voyant approcher Smic, « une des victimes de leurs mauvais propos. Nous allons vous souhaiter ensemble le bonsoir. »«
Pas du tout. Ni l'un ni l'autre, vous ne me quitterez comme cela. Il faut que vous veniez chez nous voir maman. » qui ne fait que d'arriver à Portsmouth aujourd'hui et qui se meurt d'envie de vous voir. Lidrook, ma chère, je vous charge de persuader M. Johnson.
Voilà qui est bon, répondit Mademoiselle Lidrook avec une extrême vivacité. Si vous-même vous ne l'avez pas persuadé...
Miss Lidrook n'en dit pas davantage, mais ses rires folâtres disaient assez pour elle que si Miss Snevellicci ne réussissait pas à le persuader, c'est que personne pourrait le faire.
Monsieur et Madame Lillivic ont loué dans notre maison et partagent notre salon pour le moment, dit Mademoiselle Snevellicci. J'espère que cela va vous décider.
Vous pouvez être sûr, répondit Nicolas, qu'il n'y a rien au-dessus de votre invitation elle-même pour me décider à l'accepter.
Oh, je sais bien que non, repartit Miss Snevellicci.
Mais Mademoiselle Lidrook jura sa parole d'honneur que son ami savait bien que son ami savait bien que si. Et alors, Mademoiselle Snevellicci dit que Mademoiselle Lidrook était une petite étourdie. Et alors, Mademoiselle Lidrook dit que Mademoiselle Snevellicci n'avait pas besoin de rougir si fort pour cela. Et alors, Mademoiselle Snevellicci se mit à battre Mademoiselle Lidrook. Et alors, Mademoiselle Lidrook le rendit à Mademoiselle Snevellicci.
Allons ! Dit Mademoiselle Lidrook. Il est grand temps que nous passions. Où nous allons faire croire à cette pauvre Madame Snevellicci que Monsieur Johnson lui a enlevé sa fille. Et, ma foi, ce serait bien une autre histoire.
Ma chère Lidrook, lui dit Mademoiselle Snevellicci, prenant un petit air boudeur, comment pouvez-vous dire des choses comme ça?
Miss Lidrook, sans répondre, prit le bras de Smic, laissant son ami avec Nicolas les rejoindre quand cela leur plairait.
Il paraît que cela leur plut tout de suite. ou au moins à Nicolas, qui ne se sentait pas de goût dans la circonstance pour un tête-à-tête. Les sujets de conversation ne manquèrent pas en chemin. D'abord, il se trouva que Mademoiselle Snevellicci avait un petit panier emporté à la maison, et Mademoiselle Lidrouk un petit carton, tous deux contenant certains accessoires de costume théâtral que Madame les actrices portaient et rapportaient tous les soirs. Nicolas insista pour prendre le panier, mais Miss Snevellicci résista. Elle voulait le porter elle-même. Il s'ensuivit naturellement une lutte dans laquelle Nicolas, victorieux, finit par conquérir le panier et même le carton. Après cela, Nicolas s'avisa de faire le curieux. Qu'est-ce donc qu'il pouvait y avoir dans ce panier? Et il essaya d'y regarder. Mais Mademoiselle Snevellicci poussait un cri perçant, en déclarant que, pour sûr, si elle croyait qu'il y eût vu quelque chose, elle allait se trouver mal. Alors, Nicolas se retourna du côté du carton, dont il voulait aussi pénétrer le secret. Mais il ne trouva pas Mademoiselle Lidrouk moins alarmée que son amie. Et les demoiselles, de concert, jurent qu'elles ne feront pas un pas de plus sans avoir fait promettre à Nicolas de ne plus regarder ni carton ni panier. Enfin, Nicolas capitule et s'engage à ne plus se montrer si curieux, et l'on se remet en route. Je vous laisse à penser si ce fut sans de continuels éclats de rire de ces dames, qui ne cessèrent de protester qu'elles n'avaient jamais vu, de leur vie vivante, un si méchant homme. Jamais. Toutes ces plaisanteries abrégèrent bien le chemin. Ils arrivèrent à la maison du tailleur en moins de rien. La société se trouva assez nombreuse pour simuler une petite soirée, car il y avait déjà Monsieur et Madame Lilivic, et non seulement la maman de Mademoiselle Snevellicci, mais aussi son papa. Et quel papa! Comme c'était un bel homme, Monsieur Snevellicci! Un nez crochu, un grand front blanc, décoré d'une chevelure noire toute frisée, de grosses pommettes bien saillantes. Enfin, au total, une figure magnifique n'était les bourgeons dont elle était couverte. Et encore, peut-être, n'était-ce que l'effet de la boisson. Il avait une poitrine large, le papa de Mademoiselle Snevellicci, et par-dessus, un habit bleu, râpé, boutonné, bien serré avec des boutons dorés. Il n'eut pas plutôt vu entrer Nicolas dans la chambre qu'aussitôt il passa les deux premiers doigts de sa main droite dans les boutons du milieu, et plantant avec grâce son autre bras sur sa hanche, il avait l'air de dire « Maintenant, vous voyez, mon petit damoiseau, que vous avez à qui parler !» Tel était le papa de Mademoiselle Snevellicci. Telle était son attitude quand il reçut Nicolas. On reconnaissait tout de suite un homme du métier. En effet, c'était un véritable enfant de la balle. Il avait commencé par jouer, dès l'âge de 10 ans, les diablotins dans les pantomimes de Noël. Il savait un peu chanter, un peu danser, un peu faire assaut, un peu jouer sur la scène, un peu tout faire, mais rien qu'un peu. Quelquefois, on l'avait vu figurer dans les ballets, quelquefois dans les chœurs, sur tous les théâtres de Londres. Sa tournure lui avait toujours valu d'être toujours choisi pour jouer les militaires en visite ou les seigneurs muets. Vous savez, de ces gentilshommes qui sont bien habillés et qui viennent, bras dessus, bras dessous, avec une petite dame à l'air égrillard, aux jupons courts. Il jouait des rôles avec tant de naturel qu'on avait vu plus d'une fois le parterre faire bravo, dans l'idée que c'était véritablement quelqu'un qui entrait en scène. Voilà donc le papa de Mademoiselle Snevellicci. Il ne nous reste plus à dire que quelques petites choses pour le faire connaître. Par exemple, que les envieux lui faisaient la réputation de rosser de temps en temps la maman de Mademoiselle Snevellicci, qui, elle-même, dansait encore avec une petite tournure assez proprette et quelques restes de vieux attraits. Mais malgré tout, comme elle savait bien qu'elle était un peu vieillie pour affronter l'éclat resplendissant de la rampe, elle ne dansait plus qu'au second plan. Et ce soir-là, même, fidèle aux habitudes prévoyantes, elle se tenait un peu éloignée des chandelles. Nicolas fut présenté en grande cérémonie au couple illustre. Et après la présentation, le papa de Miss Snevellicci, tout absorbé d'une forte odeur de grog et au rhum, déclara qu'il était charmé de faire la connaissance d'un gentleman d'un si beau talent. Et même, après s'être donné le temps de l'observer davantage, il ne fit pas difficulté d'avouer qu'il n'avait pas rencontré une si belle prestance depuis le début de son ami, M. Glavornelli, au théâtre de Cobourg.
« Vous l'avez vu sans doute, monsieur, » dit le papa Snevellicci.
« Mon Dieu, non, » répondit Nicolas.
« Quoi ? Vous n'avez jamais vu mon ami Glavornelli, monsieur ?» dit le papa Snevellicci. « Alors, vous n'avez jamais rien vu ? S'il vivait encore ?»«
Oh, » dit Nicolas, « il est donc mort ?»«
Il est mort, » dit monsieur Snevellicci, « et enterré. Mais non pas dans l'abbaye de Westminster, et c'est une honte. » C'était un... Enfin, n'en parlons plus. Il est parti pour ce pèlerinage d'où voyageur n'est jamais revenu. Là, du moins, il est apprécié ce qu'il vaut.
Papa Snevellicci ne put pas prononcer ces mots sans se frotter le nez avec un mouchoir jaune serein pour faire entendre à la compagnie que ses souvenirs lui étaient toujours bien sensibles.
« Eh, bonjour, monsieur Lilivic, » dit Nicolas. « Comment vous portez-vous ? »
« Très bien, monsieur, » répondit le percepteur. « Il n'est rien de tel que le mariage, voyez-vous ? »
« Vraiment ? » dit Nicolas en riant.
« Non, monsieur, il n'y a rien de tel, » répliqua monsieur Lilivic d'un air solennel.
« Comment la trouvez-vous ? » lui dit-il ensuite, tout en le tirant à part. « Comment la trouvez-vous ce soir ? » ?»«
Plus belle que jamais, » répondit Nicolas, jetant un coup d'œil sur madame Lilivic. « Ci-devant, Miss Petowker. »
Tenez, monsieur, voyez-vous, il y a en elle quelque chose, je ne sais quel prestige, que je n'ai jamais vu ailleurs. Regardez, la voilà qui se dérange pour mettre la cafetière sur la table. Hein ? N'y a-t-il pas quelque chose qui vous fascine ?
Allez, vous êtes nez coiffé, dit Nicolas.
Ah ! reprit le percepteur. « Je ne dis pas ça, dame, cependant c'est possible, je ne dis pas non. »
« Ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'aurais pas mieux rencontré quand j'aurais été jeune, n'est-il pas ?
Vous-même, auriez-vous pu rencontrer mieux, hein ? Dites donc, hein ?»
Et en même temps qu'il le pressait de questions, monsieur Lilivic lui enfonçait son coude dans le dos, riant aux éclats, d'une telle force que, lorsqu'il voulut réprimer l'expression de son contentement, sa figure en était devenue toute pourpre.
Cependant, grâce aux soins réunis de toutes les dames à la fois, la nappe se trouva mise sur deux tables que l'on avait mariées ensemble. Mariage mal assorti, s'il en fut jamais, car pendant qu'une était étroite et haute, l'autre était basse et large. Il y avait des huîtres au haut bout, du saucisson à l'extrémité, une paire de mouchettes au milieu du service et des pommes de terre cuites au four qui se promenaient de place en place selon le bon plaisir des convives. On avait apporté de la chambre à coucher deux chaises de plus. Mademoiselle Snevellicci tenait la place d'honneur. Monsieur Lilivic était en face. Nicolas n'avait pas l'avantage de siéger auprès d'elle, mais il avait maman Snevellicci à sa droite et papa Snevellicci vis-à-vis. Bref, c'est lui qui fut le héros de la fête. Et quand on eut desservi la table pour apporter un verre de punch, papa Snevellicci se leva et proposa la santé du jeune homme. La santé de Nicolas, en des termes et avec des allusions si touchantes à son prochain départ, que Miss Snevellicci fut obligée, pour cacher ses larmes, de se retirer dans sa chambre à coucher.
« Surtout, qu'on n'ait pas l'air d'y faire attention !» dit mademoiselle Lidrouk, qu'il avait accompagné en parlant à la société de la chambre à coucher dont elle avait entrouvert la porte. « Vous aurez l'air de croire qu'elle va revenir, que c'est qu'elle s'est donné trop de mal à préparer la table !»
Et Miss Lidrouk, avant de refermer la porte, accompagna cet avertissement de tant de petits signes de tête mystérieux, de tant de petites mines intelligentes, que toute la compagnie gardait un profond silence, pendant que papa Snevellicci, ouvrant des grands yeux comme des portes cochères, fixés tour à tour sur chacun des convives, mais plus particulièrement sur Nicolas, ne cessait d'emplir et de vider son verre, jusqu'à ce que toutes les dames revinrent de leur chambre en un peloton avec Miss Snevellicci au milieu d'elles.
Vous n'avez pas besoin de vous tourmenter beaucoup, monsieur Snevellicci, dit madame Lilivic. Elle est seulement un peu faible, un peu agacée. Elle est comme cela depuis ce matin.
Ah, dit monsieur Snevellicci. Voilà tout et ce n'est donc que cela?
Oui, ce n'est que cela. Surtout, pas de mauvaise plaisanterie, crièrent toutes les dames à la fois.
Mais ce n'était pas là exactement le genre de réponse auquel un homme de l'importance de monsieur Snevellicci sentait qu'il avait droit, et comme homme, et comme père.
Il se mit donc à entreprendre l'infortunée madame Snevellicci,
et à lui demander ce que diable elle voulait dire dans toutes ces énigmes.
« Au nom du ciel, mon cher !» dit madame Snevellicci.
« Je vous en prie de ne pas m'appeler mon cher, madame !» dit monsieur Snevellicci. « S'il vous plaît !»«
Papa, je vous en prie, finissez !» dit mademoiselle Snevellicci, s'interposant entre eux.
« Finir quoi, ma fille ?»«
De parler comme cela !»«
De parler comme cela ?» reprit monsieur Snevellicci. « J'espère que vous ne supposez pas qu'il y ait personne qui puisse m'empêcher de parler comme je veux !»«
Personne n'y pense, papa !»
Mais quand ils y penseraient, qui donc m'en empêcherait? Je n'ai pas à me cacher, moi. Je m'appelle Snevellicci. On me trouve à Bordecourt, rue de l'Arc, quand je suis à Londres. Et quand je n'y suis pas, on n'a qu'à m'aller demander à la porte du théâtre. Je vous réponds qu'on m'y connaît, à la porte du théâtre. Il y a bien des gens qui ont vu mon portrait chez le marchand de cigares du coin. Ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que mon nom a été imprimé dans le journal, n'est-ce pas? Non, ne pas parler comme cela. Tenez, je vais vous dire. Si je venais à savoir qu'un homme fût permis de plaisanter avec les sentiments de ma fille, je ne parlerais pas. Je n'aurais pas besoin de parler pour le confondre. C'est comme cela que je suis, moi. »
Et monsieur Snevellicci, finissant le reste avec des gestes, donnait 3 bons coups de son poing droit dans la paume de sa main gauche, dessinait en l'air un nez imaginaire qu'il tirait entre son pouce et son index, en le tirant bien fort. Puis, il avala d'un trait un autre verre de liquide en répétant
« Voilà comme je suis, moi !»
Il faut dire que les hommes publics ont leurs défauts comme tous les autres. Il n'est donc pas extraordinaire que celui de monsieur Snevellicci fût d'être un peu adonné à la boisson. Tenez, soyons francs, il n'était presque jamais à jeun. Seulement, il reconnaissait 3 degrés distincts dans le progrès de l'ivresse. L'ivresse majestueuse, l'ivresse querelleuse et l'ivresse amoureuse. Mais dans les réunions particulières, il les pratiquait toutes 3, passant de l'une à l'autre avec une rapidité de transition souvent embarrassante, pour ceux qui n'avaient pas l'honneur de bien le connaître. Ainsi, M. Snevellicci n'eut pas plutôt avalé son second verre de punch qu'oubliant presque aussitôt les symptômes qui venaient de faire paraître son ardeur belliqueuse, il promena sur tous les visages un sourire aimable, en proposant ce toast avec une vivacité extrême.
« Les dames, honneur aux dames !»«
Je les aime !» dit M. Snevellicci, promenant ses yeux tout autour de la table.
« Je les aime toutes !»«
Pas toutes !» lui dit doucement M. Lilivic.
« Si, toutes !»
répéta M. Snevellicci.
Permettez, dit M. Lilivic, vous auriez l'air d'y comprendre les femmes mariées.
Monsieur, je les aime comme les autres,
dit M. Snevellicci.
Le percepteur, frappé d'étonnement, promenait sur tous les visages qui l'entouraient des yeux surpris qui semblaient dire
en voilà un joli coco.
Et il ne se montra pas peu étonné de ne point lire dans les traits de Mme Lilivic les marques d'indignation et d'horreur qu'il espérait y voir.
Oui, mais, dit M. Snevellicci, si je les aime, elles m'aiment aussi. C'est un prêté pour un rendu.
Et, comme si cet aveu n'était pas déjà un attentat assez direct contre les plus saintes lois de la morale, savez-vous ce que fait M. Snevellicci? Il se met à cligner de l'œil ouvertement et sans déguisement aucun. Il se met à cligner de l'œil droit à l'adresse d'Henriette Lilivic. Le percepteur, frappé d'étonnement, en tombe à la renverse sur sa chaise. Qu'un monsieur se fût permis de cligner de l'œil à Henriette Petowker, c'était une indécence qui n'avait pas de nom. Mais à Henriette Lilivic,
Ce n'est pas tout. Pendant qu'il a encore la chair de poule et qu'il se demande si ce n'est pas par hasard un mauvais rêve, l'autre recligne de l'œil et boit par signe à la santé de Madame Lilivic. Il s'oublie jusqu'à lui envoyer de loin un baiser. Ah, pour le coup, Monsieur Lilivic ne peut pas se tenir sur sa chaise. Il va droit à l'autre bout de la table et tombe, c'est le mot. Il tombe sur lui sans dire gare, Monsieur Lilivic pesé de tout son poids. Aussi, quand il tombe sur Monsieur Snevellicci, Monsieur Snevellicci tomba sous la table et Monsieur Lilivic le suivit à son tour. Les dames poussèrent un cri de détresse. « A-t-on jamais vu cela ?» dit Nicolas. « Ils sont donc fous !» Puis, en même temps, il plongea sous la table, remorque le percepteur de vive force et le jette sur sa chaise, plié en deux comme un chiffon. « Qu'est-ce que vous prétendiez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'avez-vous donc ?» Ce que Nicolas venait de faire pour le percepteur, Smic, de son côté, le faisait pour Monsieur Snevellicci, qui se mit à regarder son adversaire d'un œil stupide et aviné. « Voyez, monsieur, dit Lilivic à Nicolas en lui montrant son épouse abasourdie, voyez la pureté et la grâce en personne dont la sensibilité vient d'être outragée. Violée, monsieur. Là, dit-il assez de bêtises ? S'écria Madame Lilivic, répondant au regard de Nicolas, qui ne semblait rien comprendre à tout cela. Personne ne m'a pourtant rien dit. Rien dit, Henriette ? Cria le percepteur. Croyez-vous que je ne l'ai pas vu, vous ? Monsieur Lilivic ne put pas prendre sur lui de prononcer le mot, mais il simula la chose par le mouvement de son œil droit. « Eh bien, et après ? » cria Madame Lilivic. « Est-ce que vous supposez par hasard que personne ne me regardera plus ? Le mariage ne laisserait pas que d'être amusant, par ma foi. S'il fallait se condamner à ces privations-là ! » « Comment ? » cria le collecteur. « Vous n'en êtes pas plus ému que cela ? » ?»« Ému ? » répéta Madame Lilivic avec dédain. « Tenez, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de tomber à genoux et de demander pardon à toute la société. » « Pardon, ma chère ? » dit le percepteur déconfit. « Oui, et à moi toute la première !» répliqua Madame Lilivic. « Est-ce que vous croyez que ce n'est pas moi qui suis le mieux à juger de ce qu'on me fait de convenable ou d'indécent ?»« Elle a raison !» crièrent toutes les dames. « Ne croyez-vous pas que nous ne serions pas les premières à nous plaindre s'il y avait quelque chose qui en valut la peine ?»« Ne croyez-vous pas, monsieur, qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont à faire ?» dit le papa de Mademoiselle Snevellicci, relevant le col de sa chemise et marmottant quelques menaces de casser des margoulettes s'il n'était pas retenu par la considération des cheveux blancs. En même temps, il regarda pendant quelques secondes Monsieur Lilivic d'un œil hardi et courroucé. Puis, se levant de sa chaise d'un air délibéré, il embrassa toutes les femmes à la ronde, en commençant par Madame Lilivic. Le malheureux percepteur regardait piteusement sa femme, comme pour s'assurer qu'il restait encore dans Madame Lilivic quelques traits de Miss Petowker, et ne s'étant que trop convaincu que son malheur était consommé, il demanda pardon à toute la société avec une grande humilité, et il se rassit tellement abattu, découragé, désemparé, qu'on ne pouvait s'empêcher de le plaindre, malgré son égoïsme et ses manies. Le papa de Mademoiselle Snevellicci, exalté par son triomphe et par l'épreuve incontestable qu'il venait de faire de sa popularité dans le beau sexe, ne tarda pas à devenir jovial, pour ne pas dire tapageur. Tantôt c'était une idée qu'il entonnait sans être prié, et une chanson qui ne finissait pas. Tantôt c'était des prouesses de sa jeunesse, dont il régalait dans l'entracte les oreilles de la société. Il racontait toutes les femmes magnifiques soupçonnées dans le public d'avoir eu un caprice pour lui. Il en citait plusieurs par leur nom pour leur porter une santé. Et ne manquait pas l'occasion de remarquer que, s'il n'avait pas été si négligent dans ses intérêts, il roulerait à l'heure qu'il est dans sa voiture à 4 chevaux. Heureusement, ces réminiscences ne paraissaient pas éveiller des sentiments bien douloureux dans l'âme de Madame Snevellicci, qui s'occupait tranquillement, pendant ce temps-là, a édifié Nicolas sur toutes les qualités et les mérites infinis de sa fille.
La fille, de son côté, ne s'oubliait pas pour faire valoir les moyens de séduction les plus victorieux, qui pourtant, malgré le concours des petits artifices de Madame Lidrouk, échouèrent contre l'indifférence de Nicolas. Il avait encore tout frais dans la mémoire le souvenir peu encourageant de Mademoiselle Squeers. Aussi résista-t-il avec fermeté à toutes les fascinations braquées contre son cœur, et se mit une telle réserve dans toute sa conduite que, lorsqu'il prit congé des dames, il n'y eut qu'une voix pour le proclamer un monstre d'insensibilité. Le lendemain, de bonne heure, les affiches étaient mises et le public averti, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et des lettres de fantaisie qui figuraient dans leurs contours, la collection complète des difformités résultant d'une déviation de l'épine dorsale que M. Johnson aurait l'honneur de faire le soir ses adieux à la ville, qu'on était donc invité à retenir les places de bonheur, vu l'influence considérable de spectateurs qui se portaient à ces représentations. Car c'est un fait curieux dans l'histoire dramatique, mais un fait trop avéré pour qu'il puisse y avoir de contestation là-dessus, qu'il faut renoncer à attirer du monde au théâtre, à moins qu'on ne commence par faire croire aux amateurs qu'ils ne pourront jamais y entrer. Nicolas, en arrivant le soir, ne savait trop comment s'expliquer le trouble inaccoutumé et l'excitation visible qu'il remarquait dans la physionomie de toute la troupe. Mais on ne laissa pas longtemps dans cet embarras. Avant même qu'il eût pu faire une question, M. Crumless s'approcha de lui et, d'une voix qui exprimait tout son trouble, l'informa qu'il y avait dans les loges un directeur de Londres.
« C'est le phénomène, voyez-vous, monsieur ?» disait Crumless, entraînant Nicolas au petit trou du rideau pour lui faire voir par là le directeur de Londres. « Je ne fais pas le moindre doute que c'est la renommée du phénomène !» Tenez, le voilà, ce monsieur en manteau avec une chemise sans col. Mais Johnson, je ne la donnerai pas à moins de 250 francs par semaine. Elle ne montera pas sur scène dans un théâtre de Londres pour un sou de moins. Et puis, qu'ils n'aillent pas s'imaginer que j'irai leur donner l'enfant sans qu'ils n'y prennent aussi la mère. Ils enrôleront Madame Crumless par la même occasion. 500 francs la paire par semaine. À moins, je vais vous dire, qu'il ne me comprenne aussi dans le marché avec les deux garçons. Parce qu'alors, je lui donnerai toute la famille pour 750. On ne peut pas dire mieux. Il faut bien qu'ils nous prennent tous en bloc. Si pas un de nous ne veut quitter l'autre, cela se fait quelquefois à Londres. Et ça va tout seul. 750 francs par semaine, c'est bien bon marché, Johnson. Vraiment, c'est pour rien.
Nicolas ne contesta pas ce point. Et M. Vincent Crumless, prenant coup à coup plusieurs prises de tabac pour se calmer, se dépêcha d'aller conter à Madame Crumless qu'il venait décidément d'arrêter les seules conditions auxquelles il consentirait à traiter, et qu'il était bien résolu à ne pas en rabattre un liard. Voilà donc tout le monde habillé. La toile se lève, et l'excitation causée par la présence du directeur dans la salle monta à son paroxysme. Chaque artiste en particulier se trouve savoir de bonne source que c'est pour lui ou pour elle qu'il est venu voir son jeu. Et tous, par conséquent, sont dans un grand trémoussement d'inquiétude et d'impatience. Ceux qui n'étaient pas sur le premier plan en scène vont bien vite prendre sur le côté une place d'où ils puissent, en tendant le coup, voir et se faire voir. D'autres vont se porter en reconnaissance dans les deux petites loges d'avant-scène réservées pour observer de là le directeur de Londres. Il y eut un moment où l'on vit sourire le directeur de Londres. C'est en voyant le jocrisse essayant d'attraper une mouche à viande, pendant que Madame Crumless en était justement au plus beau de ses grands effets.
« Très bien, mon joli garçon, » dit M. Crumless en montrant le poing au jocrisse quand il rentra dans les coulisses.
« Vous quitterez la troupe pas plus tard que samedi !»
Il n'y avait donc pour tous les acteurs en général et pour chacun en particulier qu'un spectateur dans la salle. C'était le directeur de Londres. La pièce ne se jouait, à vrai dire, que pour lui. Quand M. Lanneville, dans un transport de colère irrésistible, appela l'empereur un mécréant et que, par réflexion, il dit en mordant son gant «
Mais non,
Il ne faut pas dissimuler !»
Au lieu d'abaisser d'un air sombre ses regards sur les planches pour atteindre la réplique, comme cela se fait toujours en pareil cas, il tint son œil bravement fixé sur le directeur de Londres. Quand Mademoiselle Bravassa chanta sa charmante chansonnette à son amoureux, qui se tenait tout près, selon l'usage, à lui prendre la main dans l'intervalle des couplets, au lieu de se regarder l'un l'autre tendrement, qu'est-ce qu'il regardait ? Le directeur de Londres. C'est pour lui tout seul que M. Crumless mourut en scène. Et quand les deux gardes vinrent emporter son cadavre après une mort affreuse, son cadavre ouvrit l'œil pour lancer une œillade au directeur de Londres. Mais malheureusement, on finit par s'apercevoir que le directeur de Londres s'était endormi. Il ne tarda pas à se réveiller et partit tout de suite, au grand désappointement de toute la troupe, qui passa sa colère sur le malheureux Jocris, déclarant que c'était sa bouffonnerie intempestive qui avait fait tout le mal. Et M. Crumless annonça qu'il y avait longtemps qu'il hésitait à prendre ce parti, mais que décidément, il ne pouvait pas patienter davantage et qu'il lui serait donc obligé de lui faire l'amitié de chercher ailleurs un autre engagement. Désintéressé dans la question, Nicolas n'y trouva qu'un sujet de divertissement très amusant et surtout de satisfaction véritable quand il vit disparaître l'illustre personnage avant qu'il eût lui-même paru sur la scène. Il joua de son mieux dans les deux dernières pièces. Et après avoir été accueilli avec une faveur unanime et des applaudissements sans exemple, pour nous servir des propres termes de l'affiche du lendemain, imprimée la veille, 2 heures avant la représentation, il prit Smic par le bras et s'en retourna avec lui à la maison. Le lendemain matin, arriva une lettre de Newman Nodge, toute couverte de pâté d'encre, très laconique, très petite, très sale et très mystérieuse. Il y pressait Nicolas de revenir à Londres sur le champ, sans perdre un instant, ce soir même, s'il c'était possible. « J'y serai, » dit Nicolas. « Dieu sait que, si je suis resté ici, c'était contre ma volonté. Enfin, j'ai cru bien faire, et pourvu que je n'y sois pas resté trop longtemps, que peut-il donc être arrivé ? Smic, mon brave garçon, tiens, prends ma bourse, emballe nos effets, on va payer les petites dettes que nous devons avoir. Vite ! Et nous aurons le temps d'être prêts pour prendre la diligence de ce matin. Je vais seulement leur dire en 2 mots que nous partons. Je suis à toi dans un moment. » En même temps, il prit son chapeau et courut en toute hâte au logis de M. Crumless, frappa le marteau de si bon cœur qu'il éveilla le directeur, et que M. Bulf, le pilote, dans l'excès de sa surprise, faillit lâcher sa pipe qu'il avait toujours entre ses dents. La porte s'ouvre, Nicolas enjambe les escaliers sans autre cérémonie, et, tombant comme une bombe dans le salon du premier sur le devant, dont les volets étaient encore fermés, il trouva aux pieds les deux fils Crumless, qui s'étaient réveillés en sursaut et passaient leurs pantalons avec une extrême vivacité, en proie à la pensée sinistre qu'il n'était encore que minuit et que le feu était apparemment dans la maison voisine. Avant qu'il eût le temps de les rassurer, M. Crumless était descendu avec son peignoir de flanelle et son bonnet de nuit. Nicolas lui expliqua rapidement qu'il était survenu des circonstances qui le ramenaient impérieusement à Londres à l'instant même. « Ainsi, au revoir !» dit Nicolas. « Au revoir ! Au revoir !» Il était déjà presque au bas de l'escalier que M. Crumless, encore tout saisi, n'avait pu ouvrir la bouche que pour lui représenter les affiches. « Je n'y peux rien !» répliqua Nicolas. « Je vous laisse en dédommagement ce que vous me devez sur cette semaine, et si ce n'est pas assez... « Dites-moi tout de suite ce qu'il vous faut, surtout dépêchez-vous. »« C'est bon, nous sommes quittes, » répondit Crumless. « Mais dites-moi, ne pouvez-vous pas nous donner encore ce soir ?»« Pas une heure, pas une minute, » reprit Nicolas dans son impatience. « Ne vous arrêtez-vous pas, au moins, le temps de dire un mot à Madame Crumless ?» demanda le directeur en l'accompagnant jusqu'au pas de la porte. « Je ne m'arrêterai pas même pour prolonger ma vie de 20 ans !» « Tenez, donnez-moi la main et recevez tous mes remerciements. Mon Dieu, je crains de m'être amusé ici trop longtemps. » En prononçant ces mots, il frappa du pied la terre dans son impatience, s'arracha des bras du directeur qui ne voulait pas le lâcher et partant comme un darde, disparut bientôt à sa vue. « Voyez donc,
« Voyez donc !» dit M. Crumless, toujours les yeux fixés dans la rue, sur le point où il venait de le perdre de vue. « Ah, s'il jouait seulement comme cela, qu'il ferait de l'argent !» Je suis fâché qu'il nous quitte si tôt. Il m'était bien utile. Mais il ne sait pas ce qu'il veut, c'est un jeune étourdi. Oh, les jeunes gens, c'est si imprudent. Monsieur Crumless, une fois lancé dans les réflexions morales, n'en aurait pas fini de sitôt. Mais, en portant machinalement la main à la poche de son gilet, sa tabatière ordinaire, il ne trouva pas la moindre poche de ce côté. Il se rappela tout à coup qu'il n'y avait pas plus de gilet que de poche. Puis, jetant un coup d'œil sur l'extrême simplicité de son costume, il ferma brusquement la porte et se sauva dans sa chambre. Smic n'avait pas perdu son temps pendant l'absence de Nicolas, et grâce à son activité, tout se trouva bientôt prêt pour leur départ. Ils se dépêchèrent de casser la croûte et, moins d'une demi-heure après, ils étaient au bureau de la diligence, tout essoufflés de leur course rapide. Comme ils avaient encore quelques minutes devant eux, Nicolas donna des arrhes pour arrêter ses places et se précipita chez le fripier d'à côté pour y acheter à Smic un paletot. Le manteau aurait été un peu large pour un sans-garde, mais le fripier, ayant déclaré qu'il allait à Smic comme un gant, Nicolas en fit l'emplette. Dans son impatience, il l'eût acheté tout de même s'il l'avait été le double. En arrivant à la voiture, déjà arrêtée en pleine rue et prête à partir, Nicolas fut bien étonné de se sentir tout à coup étreindre d'un embrassement amical, mais violent, qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Et son étonnement redoubla en entendant la voix de M. Crumless s'écrier « C'est lui ! C'est mon ami ! Mon cher ami !»« Au nom du ciel !» cria Nicolas, se débattant entre les bras du directeur. « Que venez-vous faire ?» Le directeur, sans lui répondre, le pressait de nouveau contre son cœur en s'écriant « Adieu, noble ami, mon vrai cœur de lion !» La vérité est que M. Crumless, qui ne perdait jamais l'occasion d'un coup de théâtre, était revenu tout exprès pour faire des adieux publics et solennels à Nicolas, et pour en augmenter l'effet, il se mit, en dépit de la répugnance de l'autre pour être le héros de cette scène, à lui infliger coup sur coup de ces embrassades dramatiques dont voici la règle. L'embrasseur se pose le menton sur l'épaule de l'embrassé et ils regardent, comme Janus, chacun de leur côté. M. Crumless appliqua la règle dans toute sa pureté, fidèle au grand style du mélodrame, répandant en même temps avec profusion les formules d'adieu les plus attendrissantes qu'il put trouver dans son répertoire. Mais ce n'était pas tout. Maître Crumless, le fils aîné, faisait la même cérémonie avec Smic. Et maître Percy Crumless, le fils cadet, vêtu d'un très petit manteau d'occasion en camelot, jeté tragiquement par-dessus l'épaule, se tenait près de là, debout, dans l'attitude d'un satellite du tyran, attendant Oreste et Pylade pour les conduire à l'échafaud. Les spectateurs en riaient de bon cœur, et Nicolas, voyant que c'était encore le meilleur parti à prendre, en fit autant de son côté, aussitôt qu'il fut parvenu à se dégager. Puis, allant au secours de Smic, fort étonné de tout ceci, il grimpa derrière lui sur l'impérial, et de là, envoya de la main un baiser en l'honneur de Madame Crumless, absente. La voiture roulait déjà.